Isabelle qui. Alors, moi, je dois dire que j'étais dans le membre du jury et que j'ai pris beaucoup de plaisir à lire cette pièce.
Moi, la discuter avec toi. Donc oui, alors voilà, c'est une thèse de sciences politiques. Donc, pour ceux qui ne situent pas, hein, la science politique est largement dominée aujourd'hui comme discipline en France par la sociologie politique, c'est-à-dire une grande partie des gens qui font la science politique sont des sociologues de formation. C'est important à savoir, quoi. C'est pas une discipline qui dans la plupart des cas prétend à une autonomie en termes de méthode. Donc oui, j'ai fait une thèse de sciences politiques parce que le directeur avec lequel je voulais travailler, qui était Vincent Dubois, donc, qui avait écrit notamment une histoire, une socio-histoire de la catégorie de politique culturelle, que je vous recommande, ça s'appelle La politique culturelle, et travaillait en sciences politiques à Strasbourg. Donc je suis allé là-bas. Au début, je voulais élargir mon travail de débat qui portait sur les ateliers d'écriture, l'élargir d'une manière générale au dispositif d'autodidactie, à des dispositifs d'encadrement, d'activités d'autodidactes ayant une prétention culturelle ou civique ou militante ou les deux. Bon, d'ailleurs en allant à Strasbourg pour le faire, je m'étais dit que en le faisant sur une base locale, je retrouverais un moyen de cerner à peu près le sujet de manière praticable. En fait, il s'est avéré, d'une part parce que je ne connaissais pas assez bien le terrain à l'origine, et d'autre part parce que je pense que c'était un cul-de-sac comme démarche, que j'ai dû renoncer à cette base locale et trouver un moyen de définir autrement le périmètre de mon objet. Et à force de ne pas y arriver, on m'a heureusement soufflé, quelqu'un m'a parlé d'expression éducation populaire que moi non plus je n'avais jamais entendu jusqu'à présent, et je me suis rendu compte très vite qu'il y avait déjà, donc là on était en 2005-2006, on était une période où il y avait eu déjà pas mal de tentatives de relance et de reproblématisation de la catégorie d'éducation populaire dont l'offre publique de réflexion dont tu as parlé, et de manière finalement relativement classique actuellement dans les études de socio-histoire, je suis passé d'un usage de la réaliste de la catégorie, c'est-à-dire un usage de la catégorie comme décrivant, pouvant réellement être utilisé directement comme un nom décrivant une certaine réalité, ce que ça peut être, hein, mais il aurait fallu le travailler davantage et différemment. Je suis passé de cet usage réaliste à un usage nominaliste, c'est-à-dire je me suis intéressé à l'expression elle-même, à la manière dont elle était portée, la manière dont elle était utilisée, combinée avec d'autres, opposée à d'autres catégories, construite, déconstruite, et ainsi de suite. Et par la suite, enfin, une fois, ça faisait couvrir le problème parce qu'il se posait la question de comment, quels outils utiliser pour faire cette étude d'une catégorie qui, au contraire de beaucoup d'autres catégories qui ont fait l'objet de ce traitement-là, est une catégorie extrêmement molle parce qu'elle n'a jamais été institutionnalisée de manière très forte. Elle n'a jamais eu, ou si peu, son segment ministériel. Elle n'a jamais fait l'objet de rubriques régulières de publication. Régulière à un niveau, comment dire, de visibilité suffisant, de rubrique régulière dans les médias, mais toutes les manières qu'on peut avoir d'identifier une catégorie forte, mettons la culture, la santé, même l'animation, toutes ces manières-là donnent un résultat décevant pour l'éducation populaire, où on navigue quelque part entre des périodes de néant ou des périodes de quasi-inexistence dans les discours de l'expression, et puis des périodes où on commence à avoir l'amorce d'une institutionnalisation forte. Par exemple, actuellement, où il y a un ministère de l'éducation populaire, parmi d'autres intitulés, ce qui ne dit absolument rien d'ailleurs sur la réalité de la politique en question, bien entendu. Pardon ? Oui, le ministère des Sports, de la Jeunesse, de l'Éducation populaire et de la vie associative.
Ah non, au contraire, pour la première fois, même au niveau ministériel, officiellement.
La direction de l'éducation populaire, ça fait plus longtemps. Mais enfin bon, on est à un moment. Ouais. Non, je vous en prie, c'est une question. Donc j'ai pas mal fluctué sur la manière de nommer ce que c'était que cette chose que je voulais étudier. Alors non pas nommer l'éducation populaire, mais qu'est-ce que je faisais quand je parlais de cette éducation populaire avec des guillemets. Est-ce que je parlais d'une politique publique? Ça, on en est quand même relativement loin. D'un concept, du point de vue de ce qui caractérise un concept comme concept, c'est-à-dire notamment la recevabilité dans les espaces de production intellectuelle, dans le champ universitaire par exemple, bon, on a été assez loin aussi, problème public, catégorie, tout ça était encore trop fort en fait pour décrire l'existence, l'état d'existence, degré d'existence sociale de l'éducation populaire comme catégorie. Alors je me suis rabattu sur l'aspect, sur l'approche la plus nominaliste possible, sur vraiment les mots éducation populaire, et je suis tombé sur un travail qui a été déterminant pour construire ce sujet, qui était cette thèse, qui était le travail d'une linguiste, Alice Crick-Planck, qui reprenait des travaux antérieurs pour les systématiser, sur la notion de formule. Une formule, c'est une expression, très souvent une expression complexe d'ailleurs, qui décrit une réalité sociale où sur laquelle les différents acteurs s'entendent pour en définir à peu près le périmètre, à peu près seulement, et qui en même temps est une réalité conflictuelle, avec donc tout le temps des conflits, des concurrences sur ce périmètre, une tendance à déconstruire les différents éléments de l'expression pour les recombiner et en affecter le sens, et en affectant le sens, affecter eh bien, la légitimité des acteurs, de tels ou tels acteurs à s'en emparer. Bref, cette expression, cette notion de formule qu'Alice Crick-Planck, donc cette linguiste, a surtout développée pour quelque chose de très différent, à savoir l'épuration ethnique dans les discours médiatiques sur la guerre en ex-Yougoslavie, eh bien, m'a semblé totalement transposable, et en tout cas m'a permis d'achever ma thèse. Alors, au début, cette approche de l'éducation populaire comme expression, comme formule discursive, devait être très centrée sur la période contemporaine, depuis la période allant du milieu des années 90 à la date de la soutenance de la thèse, en gros. Mais, et je pense de manière assez symptomatique de la manière de concevoir, d'approcher l'éducation populaire, d'une manière qui, à mon avis, était nécessitée par mon approche, cette part de l'histoire qui, au début, était limitée à un cadrage initial, à peu près 10% de la thèse, a grimpé jusqu'à en faire à peu près 70%, quelque chose comme ça. Donc, d'une histoire immédiate de l'éducation populaire, les guillemets, assorti d'un petit cadrage historique, on est passé à une histoire générale de l'éducation populaire depuis son apparition de manière à peu près régulière dans les discours publics en France sous la Révolution française, grosso modo. Et en fait, en faisant cette histoire générale d'un mot, j'ai croisé deux tendances assez fréquemment observées dans les discours que j'observais moi-même sur l'éducation populaire, que ce soit des discours plutôt historiques, sociologiques ou plutôt des discours militants, deux tendances des discours indigènes, entre guillemets, comme on dit en sociologie, à savoir d'une part, deux tendances qui ne se rencontraient pas de manière générale. D'une part, un intérêt pour les mots, c'est-à-dire que le passage par les considérations sur le fait que les gens ne savent pas ce que c'est que l'éducation populaire, qu'est-ce donc que l'éducation populaire, quel mot étrange, était un rituel au moins depuis les années 70, un vrai rituel des discours sur l'éducation populaire, ce qui débouchait en général sur des recombinations, c'est-à-dire sur la en se fondant sur l'hypothèse que le sens d'une expression est fondé exclusivement sur le sens de ses composantes. Les gens prennent éducation, prennent populaire, ils prennent les différents sens des deux, ils les combinent, ils en sortent la définition qui les intéresse et qui les justifie, et voilà. Ça, c'était l'intérêt nominaliste que j'observais, et c'est pas du tout la démarche que j'ai suivie. Et d'autre part, le passage par l'histoire, là aussi, est un vrai rituel dans les discours sur l'éducation populaire, et surtout depuis les années 60, avec cette histoire de Benigno Cáceres qui a fixé pour longtemps un mythe historique de l'éducation populaire, commençant avec Condorcet, avec le discours sur l'instruction publique de Condorcet, un mythe spécifique de Condorcet que d'ailleurs j'ai étudié de manière assez précise dans mon travail. Donc j'ai en fait croisé ces deux tendances nominalistes et historiques pour en faire l'histoire d'un an. À propos de la tendance nominaliste, plus précisément, j'ai remarqué par la suite, pas sur le coup, que c'était une des choses que disait souvent François Stettard, savoir que il faisait de l'éducation populaire, qui disait en faire, et elle ne se rentrait pas du tout dans le débat sur ce qu'était l'éducation, qui pourrait être un débat d'acteurs, ce qu'était l'éducation populaire, ce qui n'en était pas. Elle s'intéressait aux mots, plutôt elle s'intéressait aux institutions qui, à un titre ou à un autre, s'emparaient du mot. Et je pense que cette approche nominaliste de sa part était liée au fait de ne pas écrire l'histoire générale de l'éducation populaire. S'il y avait une personne qui aurait été en mesure d'écrire cette histoire générale ça aurait certainement été Françoise. Mais elle ne l'a pas fait, à la fois par modestie et par scrupule à l'égard des grandes ambitions synthétiques. Et aussi probablement, c'est mon hypothèse, parce que ce rapport nominaliste à l'éducation populaire devait être, à mon avis, corrélé à cette impossibilité d'en faire une histoire générale. Alors je ne sais pas s'il est aujourd'hui possible de faire une histoire générale de l'éducation populaire, si on a acquis suffisamment de matériaux monographiques pour faire cette synthèse. La question pourra se poser à Laurent d'ailleurs tout à l'heure. Mais je crois qu'il y avait au moins, au moment où j'ai travaillé, un degré auquel il était possible de faire une histoire générale de l'éducation populaire, mais c'était à condition d'introduire les guillemets et de faire une histoire générale de la manière dont cette étiquette... Il y a des chronologies. Oui, il y a des chronologies, mais bon, on n'a pas d'histoire générale satisfaisante de l'éducation populaire, et on s'en rend bien compte quand... on s'en rend bien compte quand on enseigne cette histoire-là, voilà, où on a, à mon sens, rien à remplacer. J'anticipe un peu sur la suite, non, pas vraiment. Rien à remplacer la série des colloques, organisés d'abord par l'INEP, puis par Peuple et Culture pour le dernier versant sur les années 70, donc organisé essentiellement par Geneviève Poujol. Et il y a eu des tentatives d'histoire un peu synthétiques par la suite, mais dans aucune n'est vraiment, à mon sens, satisfaisant. Mais la série des colloques de Geneviève Poujol, elle aussi, est datée. Beaucoup de travaux ont été faits depuis, donc ça aussi mériterait d'être actualisé. Je ne sais plus où je suis, je suis perdu où j'en suis. J'ai déjà commencé à me situer par rapport à l'historiographie sur le sujet. En fait, j'ai eu l'impression, et je m'en rends mieux compte maintenant, de me situer à la fois, de me situer plutôt en continuité, j'ai envie de dire, en approfondissement par rapport à des travaux antérieurs assez généraux sur l'éducation populaire. Pas tellement par rapport au travail de François Stétard, dans la mesure où il y a surtout des contributions monographiques très importantes, mais avec cette distance, cette réticence à l'égard de la synthèse. Mais par rapport à des travaux un peu plus généraux, bon, je pense aux travaux de Geneviève Poujol ou d'Antoine Léon d'ailleurs, qui ont amorcé la critique du mythe historique constitué par Cacérès, donc dans leurs travaux au début des années 80, une critique du mythe historique qui a été approfondie en cherchant à définir les raisons de l'apparition d'un mythe historique, approfondie par Jean-Claude Richez dans un article de 2004. Ce que j'ai eu, moi, c'est la possibilité, dans le cadre de ce travail, pour ce qui concerne les années 60 et les suivantes, d'aller vers cette critique du mythe, et cette recontextualisation de la production du mythe, d'y aller de manière un peu plus systématique, en ayant le temps et de descendre beaucoup plus dans le détail. Voilà, je disais, donc un approfondissement plutôt que des ruptures à l'égard de la tradition historiographique déjà pas mal constituée, même si évidemment ça concerne finalement peu d'auteurs. En particulier la question de la chronologie générale, des grandes ruptures chronologiques qu'on peut identifier dans l'histoire de l'éducation populaire. Mon travail a consisté à identifier les cycles de développement, d'émergence, de consécration et de déclin de tel ou tel usage de l'expression éducation populaire, et ces cycles lexicaux, qui sont y compris matérialisés par des courbes de nombre d'occurrences dans les discours publics, ces cycles lexicaux suivent finalement d'assez près des repères qui ont déjà été identifiés par d'autres travaux. Donc il y a un premier cycle long dont l'émergence couvre tout le 19e siècle. En fait, pendant la plus grande partie du 19e siècle, l'éducation populaire comme expression n'est jamais entièrement détachée de l'école. C'est-à-dire que l'éducation populaire renvoie à l'éducation du peuple, l'idéal d'instruction du peuple, en incluant de plus en plus d'activités périscolaires ou postscolaires, mais toujours en laissant une place pour l'école. Ça, c'est une phase d'émergence. Dans une phase de consécration, vraiment datée en 1894, à la suite de la campagne postscolaire de la Ligue de l'enseignement, on a la consécration d'une définition postscolaire, périscolaire et postscolaire de l'éducation populaire, donc les œuvres complémentaires de l'instruction publique, avec les œuvres complémentaires de l'école libre en concurrence et en miroir. Donc, phase de consécration qui va grosso modo jusqu'à la Première Guerre mondiale, puis une phase de déclin dans l'entre-deux-guerres. Ça, c'est le premier cycle. Un deuxième cycle commence avec le Front populaire. L'émergence couvre le Front populaire, Vichy, la Libération, et même la plus grande partie des années 50. Donc, ça aussi, cette unité entre le Front populaire, Vichy, la Libération, est quelque chose qui avait déjà été bien établi dans les travaux publiés autour de Geneviève Pujol. Je pense aussi au travail de Jean-Paul Martin, notamment dirigé par Jean-Paul Martin sur l'éducation populaire et la migration. Il y a les années 60 comme période de consécration d'un nouvel usage qui est en émergence dans toutes les deux décennies précédentes. Il y a la consécration d'un usage extrascolaire avec la consécration d'une figure de l'animateur distincte et même opposée à celle de l'instituteur qui était la figure dominante du cycle précédent. Et puis un déclin qui couvre l'essentiel des années 70, les années 80 et le début des années 90. La question finale de ma thèse, la dernière partie, étant est-ce que nous connaissons un troisième cycle de développement ? Ce qui semble être le cas, si on d'un point de vue quantitatif, si on regarde les usages, la nouvelle croissance du nombre d'occurrences, du nombre de publications, des discours publics de manière générale faisant référence à l'éducation populaire. Ce qui est peut-être le cas si on considère que l'éducation populaire. Beaucoup de discours sur l'éducation populaire, et ceux de Franck ou de ses camarades s'inscrivent là-dedans, beaucoup de discours contemporains sur l'éducation populaire visent à détacher l'éducation populaire des métiers et des institutions traditionnelles de l'animation, en particulier de l'animation jeunesse. C'est-à-dire qu'il y aura une nouvelle phase, c'est une hypothèse que je défends, on serait peut-être dans une nouvelle phase d'autonomisation, après l'autonomisation de l'animation éducative populaire à l'égard de l'école, on aurait un nouveau cycle caractérisé par une nouvelle autonomisation. Mais les choses sont ambiguës parce qu'évidemment, cette autonomisation joue aussi sur le réenchantement du métier d'animateur, le réenchantement du métier, des métiers du social, de la même manière que, c'est peut-être un peu difficile à suivre, de la même manière que lors de l'autonomisation précédente, donc lors des années 60, essentiellement, il y avait des années 45 ans, il y avait une tentative à la fois d'autonomiser l'éducation populaire, mais de l'utiliser pour réenchanter le métier d'instituteur via les mises à disposition, via les stages et les différentes formes de promotion ouvertes aux instituteurs. Bon, je me suis égaré à décrire le contenu de la thèse, mais je pense que mon donné, il fallait le faire aussi. Voilà, je crois que j'ai dit l'essentiel. Oui, je voulais dire aussi que cette thèse, pour l'instant, est une thèse est difficile à trouver, mais que bien sûr je peux la communiquer à quiconque est intéressé. D'ailleurs, il faut que je la mette en ligne aussi, mais comme j'oublie tout le temps, vous feriez mieux de me laisser. Mais, elle est en ligne ? Ah bon ? Où ça ? Ah, je sais pas, j'ai dû la laisser sur une page à moi, elle a dû être indexée sans que je m'en rende compte.
Les tests sont en ligne ?
Non. Tu l'as trouvée en ligne ? Ah bon ? Ah bon. Elle est en ligne. Et oui, bon, c'était le complément, c'est que cette thèse avait été acceptée à la publication au Presse universitaire de Rennes, dans la collection Res Publica, qui est la collection sciences politiques, et que maintenant ça date de parution, dépend de moi essentiellement, mais ça devrait être en 2015, hein, logiquement. Voilà.
Très bien. Donc,
moi, c'est de l'histoire ancienne pour la peine, hein, puisque la thèse est soutenue il y a presque 10 ans maintenant. Bon, j'ai fait d'autres choses depuis, mais pour en parler, deux articles consacrés à la pop culture, et puis j'ai un livre sur l'éducation nouvelle, et un autre sur les années Herzog. Donc, les années 60 à jeunesse et sport. Mais là où je crois, je dirais vraiment l'éducation populaire, c'est à propos de ma thèse donc sur l'IMJC, dont j'ai écrit un livre en fin 2008. Ma perspective, elle était fondamentalement, je dirais, celle d'une histoire classique, factuelle, positiviste, à la fois, ça tenait à ma formation, mes centres d'intérêt. Il se trouve que parallèlement à mes études d'histoire, j'avais aussi de la géographie. Et j'avais une petite formation en statistique, puis en tout cas un goût pour l'histoire quantitative, qui a en plus été renforcé par mon directeur de thèse. Il m'a dit en gros, ce qui existe et qui peut se compter, je caricature, mais c'est un peu ça. Et mais aussi Antoine Pro, mais également par réaction aussi face à au discours très fort, enfin je sais. Découvrait à ce moment-là, à la FMJC, mais aussi dans d'autres associations d'éducation populaire que je commençais à fréquenter, où on parlait sans arrêt des valeurs. Assez souvent, très vite d'ailleurs, dès que je commençais à travailler, on m'a demandé de venir faire des interventions devant des publics, de militants, et c'était racontez-nous nos valeurs. Et bon, ça m'étonnait toujours, par cet attachement aux valeurs, parce qu'il me semble qu'un des intérêts de l'éducation populaire, c'est d'abord de faire des choses. Alors éventuellement, ça transmet peut-être des valeurs, c'est d'abord du faire, mais bon, ce qu'on nous. On me demandait, c'était des valeurs. Donc, par réaction, c'est vrai que je me suis vraiment efforcé de compter. Et j'avais la chance d'avoir à disposition des gisements d'archives extrêmement riches, extrêmement abondants. La Fédération française des MJC était une grosse machine bureaucratique. Ça a beaucoup d'avantages pour les historiens, parce que ça produit de l'archive. Et en particulier dans les années 60, il y avait de façon perpétuelle des enquêtes qui étaient menées, qui n'ont pas forcément produit beaucoup de résultats sur le moment, parce qu'on n'avait pas forcément toujours le temps de les dépouiller, sauf que par contre, 30 ou 40 ans après, pour les historiens, ça permet quand même d'en faire son miel. Et puis, il y avait en partie aussi la richesse des dossiers de directeurs, donc j'en ai mis 1400 et quelques en boîte, donc dossiers de directeurs de MJC, ce qui permettait un peu de faire une sorte de sociologie historique de ce métier, sachant que j'ai quand même rapidement compris que, voilà, ce qui tenait la fédération, c'était le corps des directeurs de MJC, c'était ça la réalité fondamentale de cette fédération, c'était qu'elle employait des directeurs. Et il se trouve qu'en face, dans les archives de jeunesse et sport, dans les archives ponctuellement du gouvernement, mais aussi dans les archives des collectivités locales, il y avait aussi quand même pas mal de documents exploitables, y compris dans une perspective un peu statistique. Sur les subventions, par exemple, alors surtout sur les subventions de l'État, mais on voit des choses, par exemple, je m'étais amusé à regarder un petit peu sérieusement les sources de subventions versées par Jeunesse et Sport dans les années 60. Bon, quand on voit qu'entre 59 et 65, les subventions accordées à la FFMJC, Léo Lagrange, Peuple et Culture augmente de 3 ou 400%, mais dans le même temps, celle accordée à la Ligue de l'Enseignement augmente d'à peine 30%. Ça dit une politique, même si officiellement le gouvernement gaulliste est dans une sorte d'œcuménisme vis-à-vis des associations d'éducation populaire. Il y a clairement des choix, des réorientations qui sont faites pendant les années 60 qui sont importantes. Et. Ce choix-là, disons, de faire une histoire au jour. J'ai d'abord pas mal dénombré, j'ai passé beaucoup de temps, même si ça ne se voit pas forcément dans la thèse, encore que, mais surtout dans la version d'études, mais j'ai passé beaucoup de temps à compter, à faire des bases de données et autres, et ça m'a permis quand même d'avoir une photographie un petit peu de où se trouvaient les MJC, de voir, par exemple, bon, des choses que j'ai pu établir, que fondamentalement c'est un réseau qui s'est développé dans les villes de droite. En gros, les municipalités communistes ou municipalités socialistes n'étaient pas contre les MJC, mais elles n'en voulaient pas chez elles, c'était bien pour les autres. Et bon, ça permet de comprendre aussi les difficultés des MJC en termes, par exemple, de postes après 1977, parce que le réseau des villes moyennes et des petites villes bascule clairement à gauche. Et elles sont à ce moment-là en difficulté. Bon. Donc il y a voilà, cette forte dimension, avec un bémol dont j'avais conscience, et peut-être encore plus conscience aujourd'hui, qui est que les activités proprement parlées effectuées dans les MJC, toute la dimension vécue par les acteurs, en particulier les militants de base, forcément, elles laissent moins d'archives. Et donc, c'est vrai que fondamentalement, mon histoire des MJC, d'abord, c'est une histoire d'une institution, pas uniquement vue d'en haut, il y a aussi des éléments sur ce qui se passe en bas, mais c'est vrai que j'ai beaucoup moins, disons, accordé d'importance, sans doute, avec la distance, c'est en tout cas le sentiment que j'ai, que vraiment aux mécanismes institutionnels qui ont permis, disons, de restituer l'histoire de cette fédération qui joue quand même un rôle essentiel dans ce qui est convenu qu'on l'appelle éducation populaire, animation, politique jeunesse entre les années 1959 et 1981. Qu'on le veuille ou non, beaucoup de choses quand même tournent autour des MJC. J'ai écrit que cette politique s'est faite avec les MJC, éventuellement contre elles, mais jamais sans elles. Et, je pense, quand vous avez une fédération qui, à elle seule, dans les années 60, avale, entre guillemets, les deux tiers des fédérations de jeunesse et sport sur le volant animation socioculturelle, ça laisse forcément des traces. Bon. Et donc, de ce point de vue-là, je pense que, même si c'est fondamentalement une perspective monographique, bon, mais c'est la monographie d'une fédération et puis de 1200-1300 maisons, association locale de base dans toute la France, ça permet d'avoir des regards croisés en haut, en bas, par en haut, par en bas, et également de comprendre un peu comment se développe un secteur professionnel. Bon, sachant que j'ai essayé de compléter les archives par pas mal d'entretiens avec des acteurs présents à l'époque ou surtout passés, même si là encore, j'ai bien conscience que les choix qui étaient miens de mettre l'accent sur l'archive et très souvent sur les documents qui se prêtaient à une exploitation statistique a peut-être éliminé un certain nombre d'éléments. Et ça m'a conduit, et ça c'est par rapport à cette notion d'éducation populaire, à quelque part la considérer comme allant de soi. Et de ce point de vue-là, je suis très loin effectivement de la perspective qui a été la tienne. C'est vrai qu'à la fois elle allait de soi, mais je ne l'ai pas non plus sans doute accordé beaucoup d'importance. C'est vrai que dans l'introduction, je règle la question en disant que l'éducation populaire cède la place à l'animation, mais qu'en gros c'est les mêmes pratiques, simplement on change le vocable. J'irais, effectivement, je pense que rétrospectivement, il aurait peut-être fallu être un peu plus prudent sur ce genre de gestion. Mais bon, voilà, en tout cas, ça a été mon choix à l'époque, mais un peu par réaction par rapport à beaucoup de travaux qui mettaient l'accent beaucoup sur les valeurs, beaucoup sur les généalogies. Et c'est vrai que j'ai fait le choix là, de faire presque comme si les MJC commençaient à naître en 1959. Bon, c'est vrai que c'est le moment où fondamentalement tout se joue, mais elles ont été officiellement créées à partir de 1944. Alors après, on peut retracer leur généalogie, la maison pour tous Mouffetard, pourquoi pas, le foyer de Léo Lagrange, dans le fameux discours de Léo Lagrange diffusé en juin 1936, mais pourquoi pas surtout le patronage. C'est jamais dit ça. Alors, fondamentalement, je pense que les MJC, c'est d'abord le patronage, leur modèle pédagogique, qu'on le veuille ou non. C'est aussi fondamentalement une institution qui a été pensée par et pour les jeunes, même si ce n'a pas été que ça. C'est une des forces de dynamique sociale qui ont eu lieu dans les MJC que de transformer, mais ce qui était au départ un modèle pédagogique fondamentalement pensé pour les jeunes. Bon. Et puis, je n'ai pas aborder la période antérieure en 1959, d'une part parce que les archives étaient beaucoup plus lacunaires, et surtout parce que à l'époque, donc c'était la fin des années 90, 98, 99, à la FFMJC, il y avait une espèce d'obsession autour de la fameuse, non seulement République des jeunes, mais surtout les maisons de jeunes de Vichy, avec la découverte que il y aurait eu finalement les origines vichistes des MJC. Bon, alors tout ça était un peu, partait un peu dans tous les sens, et c'est vrai que j'ai mis volontairement une distance avec cette dimension-là, ce qui est sans doute dommage, parce que je pense que, rétrospectivement, j'aurais mieux mis l'accent sur la question des rapports entre les MJC et les autres mouvements d'éducation populaire et de jeunesse à la Libération, que j'ai traité, mais peut-être pas autant qu'il aurait fallu, sachant que les MJC ont prétendu, à ma connaissance, au moins jusqu'à la fin des années 70, être l'institution de base du service public laïque de l'éducation populaire par la voie associative, c'est-à-dire qu'elle prétendait bien à une forme de monopole. C'est pas simplement, elles ne sont pas conçues jusqu'aux années 70 comme une association comme les autres, mais bien comme une association qui visait à une forme de monopole. Et d'une certaine façon, leur difficulté, je dirais, depuis une trentaine d'années, tient bien à ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où elles ne peuvent plus être en position de revendiquer ce monopole, elles ne sont plus finalement qu'une association parmi d'autres, ben, une grande part de leur vocation première disparaît, voire même de leur raison d'être. Et donc, voilà. Et sur le. Vraiment après, sur le. Rapport à l'historiographie, disons, la place par rapport à l'historiographie existante. Alors, pour parler de Françoise Tétart, elle m'a beaucoup aidé, c'est quand même quelqu'un qui a fortement marqué, pas simplement sur le point de vue, je dirais, de la recherche, mais sur le point de vue humain, je pense que tous les gens qui ont eu la gravité autour d'elle. On a eu souvent des discussions parfois un peu animées, parce qu'on se heurtait, alors, d'une part, ce que j'appelais son refus de la synthèse, qui posait problème, et je crois que la dernière conversation qu'on a eue, je ne savais absolument pas qu'elle allait mourir quelques semaines plus tard. Bon, on s'est assez violemment heurté sur cette question-là. Mais il me semble que ça le conduisait parfois, François, ce refus, d'une part, et de la synthèse, et par ailleurs aussi, de cette dimension un peu histoire sociale, voire quantitative, celle que j'ai mise en œuvre, à une forme parfois de néo-positivisme, parfois presque naïf. Alors, il y avait une part de la naïveté qui était consciente et revendiquée. Il y en avait une autre, je pense, c'était l'effet de le choix de privilégier la vision des différents acteurs. Et elle pensait que c'était quelque chose d'absolument essentiel que d'essayer de faire croiser la position des acteurs sans tenir compte parfois d'éléments structurels qui échappent totalement non seulement à la maîtrise des acteurs mais même à leur conscience. Et j'en vois un exemple très net dans l'histoire du Fongep qu'elle a publié en 1996, qui n'est pas forcément d'ailleurs le meilleur de ses textes, mais à le lire on y voit fondamentalement des hommes qui sont mus par des intérêts divers, mais on ne voit pas le personnage essentiel qui est la direction du budget qui est derrière. C'est ça, le projet, c'est tout simplement que faire de cette croissance très spectaculaire des MJC entre 59 et 63-64. La Cour des comptes a produit deux rapports sur la question. Elle dit on est en présence de démembrement de la puissance publique. En clair, l'État confie à une association ce qu'il devrait assurer lui-même. Donc il faut trouver une solution. Et on crée le projet. Que par ailleurs, des acteurs, en particulier Lucien Trichot, délégué général de la FNJC, mais d'autres, dont Pierre Mauroy, s'activent pour créer un fonds de coopération permettant aux associations d'éducation populaire de collaborer avec l'État et les collectivités locales, c'est une chose, mais fondamentalement, c'est des logiques très, je dirais, le rouleau compresseur de la rue de Rivoli à l'époque, le ministère des Finances qui bat les cartes. Et c'est là-dessus, je pense, qu'à la fois, on avait vraiment, avec Françoise, un débat. Et donc, moi, j'étais sans doute trop dans des logiques comme ça, très structurelles. Et peut-être, du coup, j'ai sans doute perdu une partie de ce qu'est l'éducation populaire, en particulier la capacité à faire des choses, sachant que l'un des apports essentiels que, me semble-t-il, que Françoise Tétart a apporté à l'éducation populaire, c'est de faire de l'histoire une forme d'éducation populaire, en particulier par ses conférences, par la manière dont elle a su vulgariser au bon sens du terme une vision qui rompait avec la mythologie, qui rompait en partie avec cette mythologie, en diffusant ça auprès de très larges publics. Et ça, je pense, c'est quelque chose d'assez remarquable. Voilà. C'est là-dessus que je termine.
Merci beaucoup, dans le respect du temps. Donc, juste trois mots, c'est là en présence de trois types d'acteurs, mais avec des histoires complètement différentes aussi. On le voit bien, donc une histoire dont j'apprends aujourd'hui qu'elle n'est pas aussi vue que cela, en tout cas ce récit historique, pas si assumé que cela, à partir de témoignages d'acteurs. Une autre qui met en œuvre une approche plutôt sociolinguistique, qui s'interroge sur une formule tout au long de l'histoire. Et puis une histoire classique, à partir d'archives, qui est signe entre un positivisme, tu as utilisé le mot, et qui cherche à aussi donner quand même quelque part la parole aux acteurs et comment replacer ces éléments dans un ensemble cohérent. Sur les périodes, on a aussi des choses très différentes. Hein, bon, 59, 1959, hein, c'est pour vos deux travaux, mais pas pour les mêmes raisons, une date qui compte. Quand Frédéric Biron a fondé, c'est deux siècles, une fleur de lien. Donc voilà, maintenant c'est à vous, vous avez 10 minutes, je vous laisse 10 minutes. Allègrement. Puis après, si vous voulez, on va faire une petite pause par la suite. Oui, alors, présentez-vous brièvement pour que nous sachions qui parle là et d'où il parle.
Noël Théraud, femme du GEFA, auteur de l'histoire de l'éducation des adultes en France et retraité de l'université maintenant et militant depuis longtemps au GEF et dans les MJC, dans la région grenobloise et à Grenoble et à partir de l'université et autres. Et j'ai été amené à écrire ce bouquin général, que je peux qualifier de général, sur l'histoire de l'éducation des adultes à partir de deux interrogations, plutôt deux contrariétés. Tout d'abord, le bouquin de Benigno Caceres, que j'ai beaucoup aimé. Puis j'ai aimé le personnage, j'ai rencontré soit toutes les cultures avec Romain, etc. Donc j'ai aimé ce petit bouquin. Et l'inhérité, je vais vous dire pourquoi. Et puis, je participais à la demande de Jargot au foyer de Troll. Jargot était un grand président de l'FJC, dans une période tourmentée par ailleurs. Il avait créé à Troll un foyer de jeunes et d'éducation populaire où on formait donc les directeurs. Et puis, il y avait une sorte d'université populaire locale et j'ai enseigné le droit du travail. Et les étudiants professionnels, voulant devenir professionnels, comme les adultes qui étaient là, confondaient sous un même terme d'éducation populaire beaucoup de choses. Comme dans le bouquin Caceres, qui englobe beaucoup de choses dans l'éducation populaire, dans l'éducation formation initiale, la formation continue, etc., etc. Et en tant que juriste de formation, je suis parti, j'ai essayé pour moi-même d'éclairer tout ça. Et je suis parti donc d'une approche qu'on pourrait considérer comme juridique, distinguant trois composants très nettes dans l'histoire. Ce depuis le 19e siècle. Donc la composante formation professionnelle continue, la composante éducation populaire et la composante éducation ouvrière. Et en faisant l'historique de ces trois composantes qui, à mes yeux, spécialistes de droit du travail, se trouvaient en quelque sorte consacrés par un texte juridique qui avait nécessité des débats, des approches, des définitions, etc., qui était donc le congé cadre jeunesse pour l'éducation, le congé d'éducation ouvrière pour l'éducation ouvrière syndicale, et le congé de formation professionnelle continue, donc en 71. Et ça m'a permis aussi, et je termine là-dessus, dire qu'à l'époque, puisque j'avais créé beaucoup de choses dans le domaine de la formation professionnelle continue et dans l'apprentissage, ça m'a permis de voir arriver la désillusion, à partir de 72-73, la faillite de l'éducation permanente, comme le disait la revue, en fait, le glas de l'éducation permanente, à partir de 73-74, ils attendaient beaucoup les uns et les autres de la loi de 71, en matière financière, disant c'est cocagne, quelque sorte, et on va pouvoir développer l'éducation populaire. Mais non, la formation professionnelle continue, c'était une chose avec ses financements, l'éducation populaire, non, avec ses financements, et l'éducation ouvrière, une autre. Voilà. Mais il y a eu cette recherche de ma part, donc d'essayer de me heurter à cette absence de définition et d'essayer d'en approcher.
On va donner la parole à plusieurs questions. Oui, madame.
Oui, oui, je vous remercie, tous les orateurs, cet aspect historique
et surtout d'avoir évité de donner une définition d'éducation populaire.
Vous pouvez juste très rapidement.
Ah, pardon. Donc je suis éducatrice spécialisée. J'ai un passé de militante, effectivement, par MJC, mais dans le mouvement d'éducation populaire, comme on disait, notamment dans le milieu rural. Et j'ai travaillé en coopération en Amérique latine, notamment au Brésil, sur ce qu'on appelait l'éducation populaire, l'apprentissage de l'éducation populaire. Ensuite, j'ai été formatrice, éducateur, et où on m'a demandé de justement développer, faire des cours sur l'éducation populaire. Et comme on n'a pas été satisfait parce que j'arrivais pas à donner vraiment de la théorie sur le sujet, on m'a donné autre chose à faire. Je reviens justement à cette. D'essayer, ça ne se définit pas l'éducation populaire. Tout le monde, j'ai pas du tout entendu le mot pédagogie, parce que pour moi, c'est l'éducation populaire, c'est une pédagogie qui serait sur le concept de voir, juger, agir, à savoir de pouvoir, si on le lit avec les, enfin, si vous l'avez lié dans l'histoire, avec les structures, avec ceci, avec cela, c'est aussi pas pour rien, c'est que, effectivement, à ce moment-là, on pourrait peut-être oser le voir, juger, agir. Or aujourd'hui, c'est de plus en plus bâillonné, parce que au lieu de faire de l'histoire, de penser, il faut qu'on soit plutôt mouton, quoi. Pour moi, ça va avec tout le développement du libéralisme où plus on est mouton, plus on est occupé, sucer des bonbons, mais voilà. Mais surtout pas trop à penser. Quoi. La troisième voie qui peut-être est dans la troisième période, l'époque de l'éducation populaire, j'espère que c'est celle qui va rentrer dans les mouvements militants, parce que on en a besoin pour faire passer autre chose que faire passer d'une autre manière. Ce que je répète, moi c'est une pédagogie et ça va avec si quoi d'autrement pour faire passer les messages. Et que peut-être on les a fait passer à l'école, on a voulu en faire une théorie. Alors à ce niveau-là, je voudrais faire mon expérience en Amérique latine, parce que l'éducation populaire en Amérique latine, c'est précisément la prise de conscience, et puis ça allait avec l'éducation de la libération, pas la théologie, hein, c'était l'éducation de la libération. Justement donner tous les moyens aux adultes, aux enfants, de réfléchir et d'être acteurs vraiment de la vie, des acteurs de sa vie.
Donc, si je crois pas bien, vous vous référez plutôt à l'éducation populaire telle qu'on peut l'entendre au plan international, en vous référant aux travaux de Paul Frère.
Oui,
entre autres. Alors, bon, venir, mais c'est pas trop une conception très développée ici en France, même si.
Oui, mais c'est assez demandé pourquoi.
Dire une chose, mais je pense que si on n'a pas parlé de pédagogie aussi, c'est parce que enfin, les époques dont il a beaucoup été question, que ce soit finalement chez Franck Lepage, par un petit peu en repoussant, dans ce que j'ai pu dire, les années 70, c'est aussi un moment où l'éducation populaire, me semble-t-il, met à distance la pédagogie, parce que la pédagogie est rattachée au scolaire. Je pense que la figure de l'animateur se construit quand même fondamentalement contre l'instituteur. Et alors, dans les directeurs de l'université vont parler de leur pédagogie institutionnelle. Bon, c'est un mot, il n'y avait pas grand. Alors que le modèle original, années. 50, non mais les pédagogies institutionnelles, ils ne mettent pas, ça on voit pas la pédagogie institutionnelle telle qu'on l'entend. Hein. Ce qu'ils appellent la pédagogie institutionnelle, c'est la vie autour du conseil
d'administration.
Oui, enfin, bon. Mais fondamentalement, parce que le mot pédagogie, c'est un mot qui est très très peu présent dans le discours des années 60, surtout 70 dans les MJC, simplement parce que ça renvoyait à une période antérieure. Qui était quelque part la figure de l'instituteur. Et donc, dans ces années 70, dans les lycées, je parle bien, il est peu question de pédagogie. J'ai juste une réflexion. À un moment, il y a eu une tentative de créer une commission pédagogique au niveau fédéral, et il n'y a pas assez de monde, et il n'y a que des femmes. Et dans un univers qui était masculin, quand même, un monde de mecs, hein, au sens. Ça dit des choses sur, sur l'ordre des priorités, sur l'importance qui était accordée à ce qu'on appelait pédagogique. Voilà, c'est tout. Mais pas, je pense, là-dessus.
D'autres questions, peut-être, comme une question ? Ça n'est pas bien, donc, membre du GFA et de la protection. Alors, là, je trouve que la part des patients présentatifs de GFA, aujourd'hui, dans l'éducation populaire, il y a quelqu'un qui se présente comme collectif. Il y a deux chercheurs, c'est un peu près de la proportion qu'on dit, qui reste vivant dans l'éducation populaire, et sinon, c'est de recherche. Mais c'est quand même intéressant. D'après, j'ai pas vu le spectacle de France, mais j'imagine bien que même si c'est un spectacle fait par un individu, en fait, il représente des actions collectives. Donc, je pense que quelqu'un comme Gérard Mécuse, qui faisait beaucoup ça aussi dans les stages de formation, en fait, et qui est capable de se raconter l'histoire du pays minier, ce que j'ai mis en sur les objets des chercheurs, moi ce qui m'intéressait dans la thèse de Châtelier, c'est le prénom, mais bon.
Frédéric,
voilà. C'était justement l'approche linguistique. Parce que, du coup, je me suis rappelé que, bon, au fond, moi j'ai fait un peu de culture entre 70 et 81 dans mon passé, à peu près. Bon. Jamais j'ai entendu le mot éducation populaire. Et alors, si vous avez fait une analyse des rapports entre les termes, hein, des relations sémantiques, moi, ce qui serait sorti spontanément à ce moment-là, c'était l'éducation permanente. C'était la demande de l'éducation. Et encore, j'étais dans les collèges. Hein, donc, ça touchait aussi l'école de l'époque de l'éducation culturelle. Et alors, à propos de MJC, sur les cultures dans la télé, quand c'était Jacques Lévy qui était président, avait fait une étude justement des membres, de leur histoire. Et à une époque, surtout après 68, parce qu'il fallait enseigner autrement, il y avait trois quarts d'enseignants qui étaient dans le mouvement et qui avaient organisé un collectif, donc, et qui se retrouvaient dans les MJC. Et très vite après, en fait, on a vu, moi, dans le film, ils étaient bénévoles, ils faisaient des activités, etc. Donc, je ne sais pas à quel moment ça s'est transformé. Est-ce que c'est lié à la professionnalisation des formateurs, sans doute, je ne sais pas. À quel moment, donc, c'est une force vive, après tout, hein, c'est les enseignants, se sortiraient, et pourquoi. Et ma dernière question, c'était, puisque, en fin de compte, j'étais directeur de thèse, le grand maître, et qu'il a bien montré, lui, à quel moment dans l'éducation il y a une vraie période de démocratisation, qui était très courte. Donc j'ai passé les statistiques aussi sur les entrées et les sorties scolaires. Bon. Est-ce que pour les MJC, on pourrait avoir les mêmes sources, c'est-à-dire qui étaient les usagers des MJC et que sont-ils devenus? Il y a un mot, moi, que j'attendais un peu, c'est pas sur les MJC, mais démocratisation, parce que c'est de valeur dans notre pays. C'était quand même aussi ce projet de démocratisation. Est-ce qu'il y aurait des moyens de travailler là-dessus aussi?
On va peut-être. Est-ce qu'il y a d'autres. Alors, rapidement, d'autres, non?
Je poserai après.
Mais rapidement, pour répondre, il faut qu'on fasse une petite pause.
Je voudrais revenir sur la définition de l'éducation populaire, hein, que vous liez après au MJC. Alors, je pense que, enfin, moi, c'est plutôt une question, d'ailleurs, est-ce que c'est l'éducation populaire? Depuis les années 70, on va se développer en France un échec scolaire très, très grand. Hein, et parallèlement à ça, alors moi je le sais parce que je milite là-dedans depuis un certain temps, il s'est développé d'une part le secteur marchand, l'Académia et tout, pour les gens qui peuvent payer, et puis il s'est développé un secteur bénévole considérable. Et je regardais l'autre jour sur Internet, sur les mairies de Paris, de rattrapage scolaire, d'accompagnement scolaire, et tout ça qui se passe dans un secteur strictement bénévole. Et alors, au fond, est-ce que ça, c'est l'éducation populaire? Parce que ça passe, si ça passe aussi par les LGC, mais pas que par les LGC, il y a des trucs cathos, il y a des trucs juifs, il y a des trucs de toutes sortes.
Bien. Et on peut le compléter, c'est les activités promotionnelles. C'est une question. Non, les activités promotionnelles, avant qu'elles disparaissent, faisaient partie de l'éducation.
Bon, alors là, vous êtes en train de demander aux intervenants de définir ce que c'est que l'éducation populaire. En fait, ils ne sont pas forcément travaillés.
Je me suis mal fait comprendre quand j'ai dit que les LGC se référaient en permanence à l'éducation populaire tout au long de leur histoire, y compris dans les périodes où ailleurs on ne le faisait plus. Mais j'ai pas dit que les LGC avaient le monopole de l'éducation populaire. Pas.
Vous avez parlé d'un cercle flou tout à l'heure, donc c'est peut-être.
Non, par contre, je pense là-dessus. Il y a vraiment de 1944 à aujourd'hui. Du point de vue des discours, il y a une référence permanente à l'éducation populaire. Après, les pratiques, c'est autre chose. Mais je n'ai pas dit du tout qu'il y avait un monopole, hein, j'espère. Enfin...
Vous voulez il y a un téléphone qui sonne. Deux, trois mots, et puis on va la pause. Chacun.
Mais c'est ce que dit Pierre à l'instant, en fait, par rapport à l'hypothèse de réenchantement, enfin de nouvelles de redémarrage, de nouvelles phases d'autonomisation de ce concept, ce que je trouve intéressant, c'est 98, l'arrivée d'Attac, puisque Attac est un des derniers phénomènes importants de mobilisation collective, enfin, quand même un peu significatif. Ils sont montés à 40 000 adhérents, ils ont réussi à bloquer le traité constitutionnel européen, enfin, c'est pas rien politiquement, même si ils sont. Même si ils sont régressés. Et ils se définissent comme mouvement d'éducation populaire tourné vers l'action. Et là, ça devient très amusant, parce que si Attac fait de l'éducation populaire, alors que vous avez MJC, parce que je sache, il n'y avait pas l'ombre d'un cours d'explication de ce que c'est que le FMI, l'OMC et comment fonctionne la dette, etc. dans les LGC.
Des années. Dans les années 70, si. Dans les années 70.
Ah oui, non.
Mais effectivement, 20 ans après, non.
C'est ça. C'est-à-dire que l'idée de réautonomisation, elle serait soit un retour à des pratiques militantes plus radicales, plus politiques, c'est celle des grosso modo de critique du capitalisme. Moi, quand j'arrive dans l'institution 87, il n'y en a plus de ça.
Moi, je suis d'accord avec toi. Quelqu'un qui parlait espérait que l'éducation populaire soit réinvestie par les militants. S'il y a un réinvestissement du terme éducation populaire pour désigner des pratiques qui sont de l'ordre de la formation politique radicale ou relativement radicale, c'est aussi parce qu'il y a un déclin des alternatives, des cadres dans lesquels ce type de formation sous d'autres étiquettes pouvait se passer. Le déclin de la formation, enfin, des appareils du mouvement ouvrier de manière générale, leur fonction de formation, est évidemment une des raisons pour lesquelles l'éducation populaire en tant que terme laissé vacant en quelque sorte par les organisations qui s'en réclamaient d'habitude, en tant que terme laissé vacant et qui fait tilt très vite parce que pour les gens qui ne le connaissent pas, par un phénomène de recomposition sémantique, on pense éducation, on pense populaire, et on pense spontanément, enfin il y a toute une série d'images plus ou moins conscientes qui apparaissent sur, pour le dire très vite, la convergence entre les deux grandes clientèles historiques de la gauche, enfin les deux grands principes de légitimité, les intellectuels et le mouvement ouvrier. Et donc il y a une espèce de pensée quasiment magique qui fait associer, se trouver que spontanément l'éducation populaire est un bon client, de sorte, pour désigner ces formations politiques relativement radicales qui ont largement périclité
du côté du mouvement ouvrier. Il faudrait aussi regarder par rapport à l'évolution de l'offre médiatique, l'offre du côté des grands médias, et d'autre part, enfin, du côté des espoirs placés ou des espoirs qui ne sont plus placés, en particulier dans la transformation de l'école dans un sens progressiste. C'est-à-dire que on peut considérer que ça rejoint pas mal le phénomène d'attaque. En fait, le réinvestissement de l'éducation populaire sur longue de formation finalement très scolaire, très didactique, même d'ailleurs pour spectacle, même un spectacle didactique, attire aussi bien du côté des gens qui le mettent en œuvre que des gens dans le public, attire beaucoup d'enseignants ou d'anciens enseignants qui, en d'autres temps, auraient eu peut-être placé plus d'espoir en fait de s'investir dans le militantisme syndical, enseignant, dans le militantisme pédagogique, voilà, dans l'espoir d'un activisme, une transformation sociale par la transformation du monde scolaire. Mais l'impression d'impasse de tout le débat figé médiatiquement dans le débat républicain versus pédagogique et de toute évolution progressiste du monde scolaire, évidemment, favorise une espèce de fuite, en quelque sorte, une espèce de fuite et de constitution d'une sorte d'univers parallèle, c'est pas le bon mot, enfin, d'univers de consolation, comme dit le sociologue Claude Pauliat, dans lequel, à défaut de pouvoir espérer mettre encore beaucoup d'espoir dans le système scolaire, eh bien, on le reconstitue entre gens animés d'une bonne volonté culturelle et politique commune dans d'autres structures. On peut penser à ATAC, la formation ATAC de ce point de vue-là, ou aux universités populaires. Enfin, les dites nouvelles universités populaires créées à l'image de celle de Michel Onfray à Caen. Voilà, pour rebondir sur un point.
Bon, je vous propose 10 minutes de pause et puis on repart pour un petit marathon qu'on va peut-être raccourcir de l'heure
sur la question.
Donc on se retrouve ici.